Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.
Doit-on changer ou réviser la constitution congolaise? Comment procéder? Pourquoi la changer ou la réviser? Quelles en sont les conséquences juridiques? C'est la problématique qu'évoque aujourd'hui le magazine de promotion de vos droits et devoirs avec le professeur Paul Gaspard Ngondankoy, professeur de droit constitutionnel à l'Université de Kinshasa, membre de l'Association congolaise de droit constitutionnel, ACDC, et député national. Excellente écoute à tous. Débat autour de la question du changement ou de la révision de la Constitution. Pour en parler, nous recevons le professeur Paul Gaspard Ngondankoy, avec qui on va suivre un extrait de la déclaration qu'il a lue au nom de l'ACDC, dont il est porte-parole.
L'Association congolaise des droits constitutionnels tient à souligner que, forte de l'expérience de ses membres dans l'enseignement et la pratique du droit constitutionnel, elle se tient à la disposition de la nation pour le grand débat qui s'annonce, conformément à l'article 6 de ses statuts, au terme duquel l'association poursuit les objectifs suivants: servir de cadre de réflexion et d'analyse de toutes les questions touchant au droit constitutionnel congolais et comparé.
Nous allons à présent scruter votre déclaration. Vous avez déclaré que vous êtes disposé à prendre part active au débat sur cette thématique que nous évoquons. S'agit-il d'un débat pour le changement ou la révision de la Constitution, professeur?
Merci, cher ami Jeff Ngoy. Alors, vous me posez là une question à deux volets différents. D'abord, s'agissant du contenu de notre déclaration, la déclaration de l'Association congolaise des droits constitutionnels, sur le débat autour de la révision du changement de la Constitution, je dirais tout d'abord que dans cette déclaration, les professeurs de droit constitutionnel, membres de la CDC, ne se sont pas prononcés sur la révision ou sur le changement de la Constitution. Ce débat n'a pas encore lieu. Ce qui est affirmé dans cette déclaration, il y a quatre idées majeures. La première idée, c'est que les professeurs de droit constitutionnel réunis dans cette association ont pris note du débat que le chef de l'État a déclenché autour de cette thématique et des réactions au sens divers que cela a engendré. En tant que spécialistes, ils ont alors noté qu'au stade actuel, ce débat a engendré dans l'esprit de la population plus de troubles que des lumières. La population ne comprend pas ce dont il s'agit. Et c'est pour cela qu'il y a comme une sorte d'inquiétude, voire même de malaise qui monte au sein de l'opinion. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est que les professeurs de droit constitutionnel, membres de la CDC, au regard de leur expérience sur l'enseignement et la pratique du droit constitutionnel, puis je vous rappelais que certains d'entre nous ont jusqu'à 20 ou 30 ans d'enseignement de droit constitutionnel, d'autres, sinon tous, nous sommes membres des grandes institutions politiques de ce pays, ou anciens membres, et certains d'entre nous ont même dirigé ces institutions politiques ou judiciaires. Et donc, les professeurs se sont dit disposés à contribuer à ce débat pour éclairer non seulement l'opinion publique qui est inquiète, mais aussi et surtout le président de la République et les autres institutions qui interviennent ou qui interviendront dans ce processus si jamais il va jusqu'au bout. Donc, par cette déclaration, ils n'ont fait qu'annoncer leur disponibilité à contribuer à l'éclairage de ces débats, point barre. La troisième idée, c'est que les professeurs de droit constitutionnel membres de l'ACDC ont d'ores et déjà averti qu'au cours de cette consultation, ils se prononceront en âme et conscience, privilégiant l'intérêt supérieur de la nation et ne donneront que des avis qu'ils croient vrais, justes et objectifs au regard de leur connaissance de l'histoire constitutionnelle du pays en général et de la constitution en vigueur en particulier. Et ceci doit être pris tout à fait au sérieux. La quatrième et dernière idée de la déclaration, c'est que les professeurs de droit constitutionnel, membres de la CDC, ont appelé la classe politique et surtout la population au carré. Puisque précisément, non seulement ce débat n'a pas encore commencé, mais aussi et surtout, au stade actuel, personne ne peut en présager l'issue, sauf à demeurer évidemment dans des spéculations et des procès d'intention. Voilà comment il faut scruter cette déclaration point barre.
Même si vous ne pouvez pas donner votre position, pourquoi doit-on changer ou réviser la Constitution?
Alors, au stade actuel, cher ami Jeff, comme je viens de le dire, personne ne le sait encore. Car non seulement le président de la République n'a pas encore convoqué la commission d'experts à laquelle il a fait allusion, mais nous ne connaissons même pas les articles de la Constitution qui seront concernés. C'est vrai que le président de la République a cité en exemple l'article 217 de la Constitution, où il s'est plaint de la lenteur qui est généralement prise dans la mise en place des institutions après les élections, ou encore de la problématique de la corruption dans les assemblées provinciales lors de l'élection des gouverneurs et des sénateurs, ça il a dit, mais au stade actuel, je le répète, nous ne savons pas encore combien d'articles sont concernés, ni dans quel sens souhaiterait-il aller. Mais je pense qu'en théorie, vos auditeurs, à mon avis, doivent savoir ceci. Et je voudrais développer ici, si vous me le permettez, quatre considérations majeures.
Oui, allez-y.
La première considération, c'est que la Constitution est l'œuvre d'un pouvoir spécial, un pouvoir qui est au-dessus de toutes les autres institutions, de toutes les institutions qu'on appelle pouvoir constituant, c'est-à-dire un pouvoir qui établit une nouvelle Constitution ou qui modifie une Constitution existante. Quand il s'agit d'établir une Constitution nouvelle, on l'appelle pouvoir constituant originaire. Quand il s'agit de modifier une constitution existante, on l'appelle pouvoir constituant dérivé ou institué. Alors, en démocratie, le pouvoir constituant originaire, c'est le peuple lui-même. En revanche, en situation non démocratique, par exemple dans une dictature ou autre, ce pouvoir constituant originaire peut être un individu ou un groupe d'individus qui, par la force des armes, généralement, impose au peuple une constitution nouvelle. Alors, quant au pouvoir constituant dérivé, il est constitué par l'ensemble des organes représentatifs du peuple que le pouvoir constituant originaire a désigné et auquel elle a reconnu la prérogative de modifier la constitution existante. Ce pouvoir constituant dérivé est par définition limité parce que d'abord, il est institué dans la constitution, tandis que le pouvoir constituant originaire est en dehors de la constitution. Et ensuite, parce que la constitution limite l'étendue de son pouvoir, soit quant aux matières à réviser, soit quant aux circonstances de la révision le plus souvent liées au temps. Et dans notre Constitution, l'article 219 cite ces circonstances-là et l'article 220 interdit de réviser la Constitution sur certaines matières. Deuxième considération, c'est que le pouvoir constituant originaire, celui qui dote le pays d'une Constitution nouvelle, n'intervient pratiquement que dans deux circonstances, dans deux hypothèses historiquement attestées. Soit qu'il s'agit d'un nouvel État qui est né et qui, pour la première fois, doit se doter d'une constitution, soit qu'il s'agit d'un État qui avait déjà une constitution, mais n'en dispose plus, à la suite, par exemple, d'une révolution ou d'un coup de force, et qui, à cause justement du renversement de l'ordre constitutionnel existant, se voit obligé de se doter d'une nouvelle constitution. Ce n'est que dans ces deux hypothèses historiques que le pouvoir constituant originaire intervient. Et lorsqu'il intervient, c'est-à-dire lorsqu'il dote le pays d'une constitution nouvelle, il se dépouille une fois pour toutes de son pouvoir, c'est-à-dire qu'il disparaît en tant que pouvoir constituant originaire et ne peut plus réapparaître dans l'ordre juridique d'un État que lors d'un prochain vide constitutionnel. Car, vous devez le savoir, l'intervention du pouvoir constituant originaire suppose inévitablement une situation de vide constitutionnel. Et quand il disparaît dès lors, il laisse la place au pouvoir constituant dérivé ou institué, lequel, comme je l'ai dit, est chargé d'éventuelles modifications de la Constitution déjà établie.
Identité culturelle. La culture congolaise dans sa diversité et sa richesse a un rendez-vous sur Radio Okapi. Identité culturelle aborde la culture et les arts sous toutes leurs formes. Gastronomie, littérature, les us et coutumes et tout ce qui peut redonner aux Congolais sa valeur identitaire. Identité culturelle, un magazine qui vous ressemble. Et trouvez toute l'équipe tout le samedi à 8h30. Le mardi à 14h15.
Droit et citoyenneté.
Vous nous parlez du pouvoir constituant dérivé.
Et dans notre constitution actuelle, j'y reviendrai, ce pouvoir constituant institué ou dérivé, c'est ce qu'on appelle le Parlement réuni en congrès. Et c'est ce Parlement-là qui a reçu du constituant le pouvoir de réviser la constitution existante.
Est-ce que la population aussi qui est consultée par voie référendaire peut décider du changement de la constitution?
Je le dirai tout à l'heure.
Oui.
Et donc la troisième considération, c'est que je parlais du pouvoir constituant originaire. Maintenant, le pouvoir constituant dérivé ou institué, lui n'établit jamais une nouvelle constitution. Sa compétence se limite à réviser, je l'ai dit, c'est-à-dire à modifier une constitution déjà existante. Mais je sais que cette révision peut être soit totale, soit partielle. Alors, quand elle est totale, elle concerne l'ensemble des dispositions de la Constitution.
Et là, c'est le changement.
Par exemple, les 229 articles que nous avons actuellement dans la Constitution. Dans cette hypothèse, on peut dire effectivement qu'il s'agit d'un changement de la Constitution.
Donc, ce qui est verrouillé peut être déverrouillé.
Si c'est possible, si c'est permis. En revanche, la révision est partielle lorsqu'elle ne touche que certains articles de la Constitution. Alors, dans cette hypothèse, qui est la plus courante et la plus généralement approuvée en doctrine, parce que la révision totale de la Constitution est pratiquement impossible. Dans certains États même, on l'interdit, notamment en Suisse. On ne peut pas réviser la totalité de la Constitution. Alors, dans la seconde hypothèse, celle où on révise certains articles de la Constitution, on parle effectivement de révision de la Constitution. Mais attention, lorsqu'on modifie certains articles de la Constitution, mais que cette modification-là est substantielle et elle touche à des dispositions majeures, comme par exemple les dispositions qui concernent la forme de l'État, ou la forme du régime politique, ou le système des libertés qu'on a prévu dans la Constitution, on peut parler aussi de changement des constitutions, parce que les dispositions majeures de la Constitution concernant ces trois points-là ont été modifiées, même si les autres dispositions de la Constitution restent. Mais ça, ce ne sont que, on va dire, des termes. Et nous savons que nous, les doctrinaires, nous aimons beaucoup les termes à créer, entre changement et révision de la Constitution. Mais ce qu'il faut savoir, et c'est ma dernière considération, c'est que pour parler d'un changement des constitutions, en réalité, il faut modifier deux parties essentielles de nos constitutions. Parce que la constitution a deux parties essentielles. La partie qui concerne les droits, les libertés et les devoirs des citoyens, c'est le titre 2 de notre constitution actuelle.
Je ne pense pas qu'on puisse y toucher.
Eh bien, nous avons la grâce que l'article 220...
C'est consacré même dans la charte des Nations Unies.
Voilà. Pas seulement ça, mais nous avons la grâce que l'article 220, alinéa 2, interdit de réviser ce titre de la constitution allant dans le sens de la diminution des droits qui sont déjà reconnus. On peut modifier pour augmenter les droits ou pour en augmenter la garantie, mais jamais dans le sens de la baisse. C'est ce qu'on appelle l'effet cliquet, le fait stand still. Vous ne pouvez modifier les articles de la Constitution concernant les droits et libertés fondamentaux que pour en augmenter la garantie.
Pas pour en diminuer.
Et donc ça, c'est la première partie d'une Constitution. Alors, la deuxième partie, c'est celle qui touche à l'organisation et à l'exercice du pouvoir politique. Eh bien, vous trouvez ça dans les titres 3 à 6 de notre Constitution. Lorsque on parle de changement de la Constitution, en principe, il faut que ces deux parties-là essentielles de la Constitution soient modifiées. Mais je venais de le dire tout à l'heure que si on révise une partie seulement, un point seulement de l'organisation du pouvoir qui concerne la forme d'État ou qui concerne les régimes politiques, parfois en doctrine, on admet qu'il s'agit d'un changement des constitutions. Mais quantitativement parlant, ça ne concerne que certains articles de la Constitution. Et donc aujourd'hui, quand nous entendons ces débats-là, quand on dit que c'est encore flou, c'est parce qu'on ne sait pas quels sont les articles de la Constitution qui seront modifiés, quelles sont les parties de la Constitution qui vont être affectés pour que nous puissions parler de changement ou de révision de la Constitution. Mais dans la pratique, nous, ce que nous savons, c'est que généralement, on ne change jamais tous les articles de la Constitution. Certains articles que nous avons aujourd'hui...
Donc on ne peut jamais faire tabula rasa.
On ne peut jamais faire tabula rasa, comme vous venez de le dire. Donc, voilà. C'est d'ailleurs pour éviter ce genre de glissement, hein, pour protéger son identité, que notre Constitution actuelle a exclu l'opération de révision pour ce qui concerne les matières verrouillées à l'article 220. Et donc, vous ne pouvez pas modifier la Constitution pour porter atteinte aux articles qui sont déjà verrouillés à travers l'article 220. Si on le fait, en ce moment-là, on change l'identité de la Constitution Et il y a des conséquences juridiques qui sont attachées à cela.
Est-ce qu'on tombe dans un coup d'État constitutionnel ou bien un coup d'État institutionnel?
Je préfère parler de fraude à la Constitution.
Fraude à la Constitution. Si c'est autorisé par la population qui est consultée, par voie référendaire, puisque le peuple est en souverain.
Mais il s'agit de quel peuple? Parce que je viens de dire tout à l'heure que lorsque le peuple se comportant comme pouvoir constituant originaire dote le pays d'une constitution nouvelle, il se dépouille de son pouvoir parce qu'il est en dehors du cadre constitutionnel. Il ne pourrait intervenir qu'en cas de vide constitutionnel. Et donc aujourd'hui, le peuple qui est à l'article 218, qui est désigné à l'article 218 pour adopter une révision de la Constitution, ce n'est pas le même peuple que celui qui adopte la Constitution. Et donc, pour avoir des conséquences, ce peuple s'est limité lui-même. Il s'est auto-limité à l'article 218 pour ne se limiter lui-même qu'à la révision de certains articles, excluant parlant lui-même certains articles qui ne peuvent faire l'objet d'aucun changement, d'aucune modification. Et mais quand on arrive là, je parle de fraude à la Constitution parce que les organes de l'État qui ont reçu le pouvoir de réviser la Constitution à l'article 218, que ce soit ceux qui prennent l'initiative, comme le président de la République, comme les parlementaires, comme 100 000 personnes qui saisissent le Parlement par voie d'une pétition, que ce soit le Parlement réuni en congrès, lui qui est le véritable pouvoir constituant institué, qui adopte la révision, ces organes de l'État ne peuvent pas proposer un changement de la Constitution, ne peuvent pas proposer le changement des articles verrouillés, parce que par cela, en changeant la Constitution, en fait, la conséquence logique, c'est qu'il y aura écoulement des institutions qui sont prévues dans la Constitution, et par voie de conséquence, les animateurs de ces institutions qui n'ont été élus que pour venir exercer les compétences qu'on leur a déterminées dans la Constitution,
ils deviennent illégitimes.
Ils n'ont plus aucun titre, parce que ils ne peuvent pas scier l'arbre sur lequel ils sont assis.
Et c'est ça la fraude dont vous parlez.
Et c'est ça la fraude.
Et non
et
le coup d'État.
Le coup d'État constitutionnel que certains évoquent. Et c'est très très dangereux. Et voilà pourquoi d'ailleurs, moi à ce sujet, j'ai une initiative. Au-delà du fait que je suis théoricien du droit constitutionnel, je suis aussi politique. Aujourd'hui, nous nous sentons mal à l'aise, nous parlementaires, de procéder au changement de la Constitution, de modifier les articles verrouillés de la Constitution, parce que le mandat que nous avons reçu, les pouvoirs que nous avons de la Constitution actuelle ne nous l'autorise pas. Comme parlementaires, nous avons le pouvoir de voter les lois, de contrôler l'exécutif. Comme pouvoir constituant, nous n'avons reçu que le pouvoir de réviser la Constitution à l'article 218, avec des pouvoirs limités quant au temps et quant aux matières. Donc, nous demandons aujourd'hui de réviser cette Constitution, y compris en touchant les articles verrouillés, nous met mal à l'aise parce que nous-mêmes, nous nous mettons en difficulté, voire même en impossibilité juridique d'exister. Voilà pourquoi, moi j'ai une proposition, vous la connaîtrez dans les jours à venir. J'ai une initiative parlementaire que je vais déposer, notamment pour donner effet à l'article 5 de notre Constitution actuelle. Ça nous permettra de sortir du nœud gordien.
Parce que chaque citoyen a des droits et devoirs. Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques, nous en parlons dans votre magazine. Mieux connaître vos droits pour bien défendre, mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Retrouvez Jeff Ngoyi tout le mardi.
En quelques mots, votre projet de loi sur
bon,
le référendum.
L'article 5 de la Constitution dit que la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce soit directement par voie d'élection ou de référendum, soit indirectement par ses représentants. Et l'article 5 ajoute que la loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum, qui sont les deux moyens d'expression directe de la souveraineté du peuple. Depuis 2006, nous avons une loi électorale qui organise la manière d'élire les représentants. Mais nous n'avons pas la loi sur le référendum. C'est vrai, il y a une loi qui avait précédé la Constitution de 2006, c'est la loi du 22 juin 2005, qui avait permis d'adopter la Constitution actuelle au référendum. Mais cette loi est dépassée. D'abord parce qu'elle est, partielle, elle n'organisait que le référendum constitutionnel. Or, la Constitution actuelle prévoit plusieurs matières qui doivent faire l'objet du référendum populaire. C'est notamment le transfert de la capitale vers une autre localité de la République, C'est notamment la question de la cession, de l'adjonction ou d'échange de territoire. Et c'est aussi l'occasion pour mieux préciser ce qui est prévu en ce qui concerne le référendum constitutionnel. Et j'ai des initiatives à ce sujet pour que nous puissions élargir cette loi. Et en prévoyant des mécanismes rigoureux pour que, en matière de transfert de la capitale, en matière de cession du territoire et en matière de référendum constitutionnel, l'on ne déborde pas les attributions qui sont dans la Constitution. Et pour cela, je propose dans cette loi que toute initiative qui irait à l'encontre des dispositions de la Constitution serait irrécevable. Et ceux qui poursuivraient cela peuvent même subir des sanctions d'ordre pénal. Donc, verrouiller une bonne fois pour toutes, à travers la loi sur les référendums, les mécanismes qui sont prévus dans la Constitution pour protéger la Constitution elle-même et pour protéger d'autres matières.
Si donc ce texte de loi passait, ce serait comme un garde-fou à notre Constitution.
Un garde-fou pour protéger la Constitution et ne pas la modifier comme on veut. Mais nous ne devons pas fermer toutes les portes. Parce que si vous fermez totalement une Constitution, vous risquez d'assister un jour au réveil d'un individu ou de quelques individus qui, par la force des armes, vous imposent une nouvelle constitution. Maintenant, il faut prévoir donc l'hypothèse selon laquelle le jour où il y aura dysfonctionnement de l'État et qu'il y a nécessité quand même de changer la constitution ou certaines de ces dispositions qui sont verrouillées, il faut prévoir dans cette loi que le peuple qui se prononce pour l'adoption d'une nouvelle constitution puisse être consulté en suivant une procédure. Et là, il y a une procédure que j'ai définie qui permet que le président de la République, qui est l'institution, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, puisse constater les dysfonctionnements, à la suite peut-être des travaux d'experts, etc., qu'il puisse saisir, faire une consultation large de la population, et s'il recueille une opinion majoritaire, il peut alors, en ce moment-là, proposer un changement de ces règles-là. D'abord, à une assemblée constituante qui sera élue spécialement pour cela. Ensuite, lorsque le texte est adopté par l'assemblée constituante, il sera soumis à approbation populaire. Donc il y a là plusieurs mécanismes qui sont prévus pour que la décision du président de la République ne soit pas arbitraire et pour que, deux, ce soit quelque chose qui est réfléchi par les scientifiques et, trois, que ce soit un texte qui est adopté par les élus spécialement pour ça et finalement approuvé par le peuple lui-même qui est le pouvoir constituant originaire. Ce n'est que de cette manière-là qu'on peut changer une constitution. Et ça, nous n'avons pas encore. C'est ce que je propose dans le cadre de ma proposition de loi.
L'article 217 ne porterait-il pas atteinte à la souveraineté de notre pays au nom de l'unité africaine?
D'abord, cet article n'est pas nouveau dans notre corpus constitutionnel.
C'est l'argument avancé par tout le monde que c'est plusieurs pays.
Il date d'abord dans notre pays de la constitution du 24 juin 1967. C'est l'article 69 qui avait prévu ça. Et cet article a été adopté dans la foulée de la création de l'Organisation de l'Unité Africaine. N'oubliez pas que le Zaïre, notre pays, le Congo, à l'époque, est un membre fondateur de l'Organisation de l'Unité Africaine. Et à l'époque, le président Mobutu avait même organisé le deuxième sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'OUA ici à Kinshasa. Et c'est dans cette foulée-là qu'on a introduit l'article 69 dans la Constitution du 24 juin 1967 pour permettre la création et la poursuite des objectifs de l'Organisation de l'Unité Africaine. Mais que dit cet article? Il a été repris en 2005-2006 dans l'article 217. L'article dit tout simplement que notre pays peut signer des traités ou des accords d'association ou de communauté avec d'autres États qui prévoient l'abandon partiel de notre souveraineté en vue de l'Organisation de l'Unité Africaine pour parvenir à l'unité africaine. Bon, pour les panafricanistes, ça a été une victoire. Et cet article ne dit pas que le pays va signer des contrats, des traités ou des associations avec des mouvements rebelles. Un mouvement rebelle, c'est un fait illicite en droit international. Un État ne peut pas signer un accord, un traité avec un mouvement rebelle. Deuxièmement, il ne s'agit pas d'abandon de souveraineté territoriale, comme on entend, c'est-à-dire qu'on cède une partie du territoire pour la création de l'unité africaine. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de concéder l'exercice de certains pouvoirs souverains.
Mais pour une période limitée.
Ça peut se limiter à une période, tout comme ça peut correspondre à la durée de l'organisation internationale qui a été créée comme l'OUA, comme l'Union africaine aujourd'hui. Et donc, ces pouvoirs, c'est par exemple le pouvoir législatif ou le pouvoir de rendre la justice. On peut confier à un organe de l'unité africaine, de l'OUA, de l'Union africaine aujourd'hui, le pouvoir de prendre des directives à caractère législatif qui s'imposent chez nous, parce que nous l'avons voulu. Et d'ailleurs, en matière de justice, nous avons aujourd'hui la Cour d'arbitrage qui siège à Abidjan, qui, en matière du traité de l'OADA, peut même remettre en cause les décisions de justice prises par nos juridictions suprêmes, la Cour de cassation, le Conseil d'État, la Cour constitutionnelle, etc. On a cédé une partie de cette souveraineté-là. Il ne s'agit pas ici de la cession d'une partie du territoire, parce que la question de la cession de territoire est réglée plutôt à l'article 214 de la Constitution, avec toutes les conditions qui sont mises en place.
Parce qu'il faut consulter la population.
Il faut consulter
la voie référendaire.
Et d'ailleurs, il faut préciser que l'on ne peut signer ce genre de contrat d'association ou de communauté avec d'autres États souverains que pour la création de l'unité africaine, pour la consolidation de l'unité africaine. Sortir de là aujourd'hui nous priverait d'une base constitutionnelle pour pouvoir rester dans l'OUA et dans les autres organisations régionales auxquelles nous sommes membres. Si on modifie cet article, nous perdons de base constitutionnelle pour rester dans l'OUA et dans ces organisations internationales. Et donc, ça n'a jamais été dans ce but-là. Nous sommes, nous, spécialistes du droit constitutionnel, étonnés qu'on puisse lui donner la signification que l'on entend aujourd'hui dans les médias.
L'État congolais exerce sa souveraineté sur le sol et le sous-sol, sans en être propriétaire.
Ça, c'est l'article 9 de la Constitution. Je sais qu'il a posé problème au moment de son adoption, parce que cette formule qui avait été proposée avait été contestée. Ceux qui sont fidèles à la formule qui vient de la loi Bakajika, c'est-à-dire notre loi foncière, ont voulu que les formules qui existaient dans les constitutions antérieures puissent être reprises, notamment le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Bon, la formule actuelle, tout en n'étant pas compréhensif aux yeux de nos spécialistes, paraît plus générale parce que cette souveraineté s'applique à toutes les parties du territoire. Nous avons les territoires aériens, nous avons les territoires maritimes, nous avons les territoires terrestres. Or, la formule selon laquelle le sol et le sous-sol appartiennent à l'État ne concerne qu'une partie de notre espace, c'est l'espace terrestre. On peut reprendre ça, mais avec une modification de l'article 9, de telle manière qu'on affirme également cette souveraineté sur l'espace terrestre de notre pays. Moi, je ne trouve pas trop de difficultés à cet article-là.
Voilà. À moins que vous ayez autre chose à ajouter sur la problématique du changement ou de la révision de notre Constitution.
Merci beaucoup, mon ami Jeff Ngoï, de cette opportunité que vous m'avez offerte. L'objet de notre entretien était d'abord de préciser le contenu de la déclaration que les professeurs de droit constitutionnel ont faite. Par la suite, nous avons essayé ici de répondre à la problématique du changement ou de révision de la Constitution. Ce que je souhaiterais est que prochainement, nous puissions parler de la Constitution elle-même.
Droit et citoyenneté, recevez le professeur Paul Gaspard Ngondangol.
Merci de votre écoute et bonne suite de nos programmes.
Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.